Radio Barque, on se retrouve pour notre troisième partie. Bernard Balester, président de la CCI, vous commenciez à intervenir tout à l'heure sur le bâtiment. Alors on va y revenir parce que c'est sans doute un des gros morceaux. Rappelons quand même aujourd'hui que les chambres de commerce et d'industrie sont encore territoriales. Il y a encore une chambre narbonnaise, mais pour pas très longtemps. Alors peut-être dites-nous ce qui se trame en matière de réforme. Rappelons quand même que les CCI sont des institutions consulaires très anciennes en France.
Oui, ce sont des établissements publics. Celle de Narbonne a 145 ans.
Voilà.
C'est pour vous dire.
Je suis le
23e président. Voilà. Alors effectivement, depuis 2010, il y a la réforme des chambres consulaires qui est en cours, qui a été menée avec plus ou moins de volonté, il faut dire les choses comme elles sont, par le réseau. Et le gouvernement, la loi Macron, en fait, et les derniers articles qui ont été votés en décembre, ont donné la possibilité à toutes les régions de s'organiser comme elles le souhaitaient. Voilà. Si ce n'est que depuis donc le mois de décembre, le schéma choisi donc par la CCI régionale, c'est-à-dire tous les présidents de chambres de commerce.
Et alors, quand on dit régional, maintenant, c'est grande région.
Ah, maintenant, pas encore.
Pas encore.
Les chambres seront régionales régionales à la dimension de la nouvelle grande région à partir du 1er janvier 2017.
Donc l'an prochain.
C'est-à-dire lors de nos prochaines élections.
Oui.
Voilà. Non, la CCI régionale Languedoc-Roussillon a choisi son schéma. Voilà. Et dans le schéma, toutes les chambres doivent devenir départementales.
Ce que vous ne souhaitiez pas, vous, personnellement...
Ce qu'on ne souhaitait pas. Enfin, les élus narbonnais avaient donné leur vision de l'organisation territoriale qu'elles souhaitaient. Elles souhaitaient se rapprocher, faire en sorte de rapprocher les trois chambres Carcassonne, Béziers et Narbonne, parce que territorialement, nous sommes très proches. Puis, bon, c'est un peu le sens de l'histoire, parce qu'on y a travaillé. Michel Santo le sait très bien. On y a travaillé il y a déjà une dizaine d'années en arrière, même ça remonte un peu plus loin encore. Bon, il n'y a pas eu la volonté à cette époque-là de tous les présidents d'aller vers ces regroupements. C'est bien dommage, parce que, en fait, le sens de l'histoire donnait raison à ces visions. Et aujourd'hui, finalement, on nous oblige à aller vers une organisation qui, de toute façon, sera plus efficiente que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une obligation, mais on aurait pu aller encore plus loin et se donner d'autres moyens, puisqu'on aurait pu construire une chambre en fait de plus de 30 000 ressortissants, ce qui était une chambre importante, et avait des moyens à l'appui à l'entreprise plus conséquents.
Voilà, bon, un regret, mais c'est ainsi. Alors maintenant, ce fameux plan Marshall pour le bâtiment auquel Michel Santo faisait allusion à l'instant, vous, ça fait partie des choses que vous avez appelées de vos voeux. Parce que le bâtiment se porte très mal dans notre région et c'est quand même un des secteurs économiques fondamentaux pour l'emploi.
Ah oui, c'est un secteur économique très important sur le Narbonnais notamment. Hein, et, bon, c'est vrai que depuis 2008, on appuie cette partie de l'économie parce qu'effectivement, il y a moins de chantiers qui sont mis en œuvre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Et c'est vrai que cette profession appelait un véritable plan Marshall, même si le terme ne plaît pas trop à Michel.
Oui, il est grandiloquent, mais bon, c'est une image quand même. C'est quand même une image.
On le trouve excessif, mais c'est une image. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus dans le bâtiment et dans les travaux publics. Et au-delà des emplois perdus, on n'a pas une visibilité tellement importante dans ce secteur-là. Donc, ça a été des arguments, en tout cas, qui ont été développés par les différents syndicats professionnels lors de la campagne des régionales. Et c'est normal qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense que cette profession est contente que Carole Delga, aujourd'hui, présente ce plan. Voilà. Après, on est quand même des gens réalistes, les chefs d'entreprise, et on sait que tout ça a ses limites. Mais au moins qu'il n'y ait pas d'année blanche, c'est ce qu'on redoutait.
Mmh. Oui. Alors, Michel, une remarque.
Rectification, j'ai dit un montant de 1 million d'euros, enfin c'est 1 milliard d'euros sur les 2 milliards et quelques des budgets consolidés des régions. Donc je rectifie au passage ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc c'est 800 millions d'euros sur un ensemble d'investissements de 1 milliard.
Oui,
donc, je rectifie.
Ouais. Oui, c'est-à-dire quand même une grande partie.
Oui.
Alors, lors de vos vœux récemment, les vœux, bon, on en a parlé parfois, Michel est parfois un peu critique sur l'usage des vœux, mais c'est aussi l'occasion souvent de faire passer un message. Récemment, à la CCI, vous avez selon ce que rapporte la presse, appelait à une libération ou un assouplissement du code du travail. Vous avez appelé à l'impertinence, titré les journaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ?
C'est-à-dire que je pense que... Enfin, j'ai une vision un peu particulière, si vous voulez, je pense qu'il faut que je l'exprime, de ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense qu'on est en train de passer d'un paradigme à un autre, hein, et qu'on y met un peu trop de temps. Et en fait, on s'appuie, on continue à construire notre avenir avec des méthodes et des recettes anciennes. Quoi. Ouais. Et si on n'arrive pas à se dégager, à passer à autre chose, à expérimenter, des formules, eh bien, je pense qu'on n'y arrivera pas, tout simplement. Moi, c'est ma vision. Bon, je suis un autodidacte, je suis pas un philosophe, mais moi j'ai cette impression.
En tant qu'à la fois président de la CCI et chef d'entreprise, donc, vous vouliez vous exprimer sur le code du travail.
Oui, le code du travail, pourquoi ? Parce que on a réuni. Bon, c'était une commande de Marie-Hélène Fabre. D'ailleurs, Marie-Hélène Fabre, députée qui fait souvent appel à nous et qui nous soutient bien souvent dans en tout cas les demandes qu'on peut faire. Après, elle aboutit pas, mais en tout cas, elle est volontaire pour le faire. Et elle nous a demandé donc de réunir un groupe de réflexion sur la simplification pour lui faire des propositions. Et ce groupe de réflexion, finalement, très rapidement, il a dit, ben nous, qui sommes chefs d'entreprise, bien sûr, ce groupe de réflexion composé de chefs d'entreprise, hein, des différents corps d'activité. Pour nous, il n'y a qu'une chose, c'est le code du travail qui est un obstacle. Parce que si on libérait le code du travail, eh bien, on embaucherait davantage, on embaucherait avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de souplesse dans ce code, nous permettrait peut-être de pouvoir nous séparer de salariés, mais quand il n'y a pas d'activité, et faire en sorte que l'entreprise puisse, l'organisation d'entreprise puisse continuer.
Oui, alors qu'aujourd'hui, bien souvent, coller à la réalité économique.
Alors que bien souvent aujourd'hui, l'organisation d'entreprise, elle périclite, voire elle disparaît, parce qu'elle ne peut des fois même pas s'acquitter d'indemnités à payer pour cause de licenciement. Voilà. Je suis peut-être un peu excessif quand je dis qu'il faut casser le code, mais en tout cas, il faut se mettre autour d'une table et avoir une véritable réflexion là-dessus. En France, il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de protéger l'emploi, mais on n'est pas en train de développer l'emploi, comme peuvent le faire, par exemple, les Américains. Eux, ils sont plutôt dans l'idéologie de développer l'emploi. Et ils se donnent les moyens de le faire.
Oui, d'ailleurs, je reprends, je vais citer ce que vous avez dit récemment, et vous me direz... Vous le développerez éventuellement. Je cite Bernard Ballester. « Lorsque j'ai créé mon entreprise, évoquer entre entrepreneurs le nombre de salariés était source de fierté et d'émulation et non d'inquiétude. » Donc vous faites un parallèle entre 40 ou 50 ans en arrière et l'inquiétude que ressentent beaucoup d'employeurs aujourd'hui.
Oui, mais c'était tellement facile à l'époque. Vous savez, le contrat de travail à l'époque, c'était on se serrait la main et on avait fait un contrat de travail. Voilà. Enfin, oui. Quand j'ai commencé
c'était à être succès entrepreneur,
bon, c'était un peu trop succès, certainement, et il fallait lui donner un peu plus de forme. Je ne dis pas que dans les grandes entreprises, ça se passait comme ça, mais dans les petites structures, c'était le cas. Et en tout cas, quand on se retrouvait entre chefs d'entreprise, je me rappelle, j'étais au CJD, il n'y a pas 40 ans, hein, mais il y a 25, 30 ans maintenant, j'étais au CJD, et quand on parlait entre chefs d'entreprise, la première des choses d'ailleurs qu'on disait quand on se présentait, c'est le nombre d'employés que nous avions. Voilà. Oui, donc c'était une fierté, c'est pour ça que je
me souviens de cette époque-là.
Une fierté. Aujourd'hui, je ne vois pas d'ailleurs au CJD, quand je vois aujourd'hui les entreprises qui sont au CJD, donc je vois de très petites structures. Mais ce qui est le reflet de nos entreprises, nous avons, à la Chambre de commerce de Narbonne, nous avons passé le cap des 8000 entreprises. Quand j'ai été président, donc en 2008, nous étions 7500. Nous sommes aujourd'hui 8200. Bon, c'est pas Ballester Bernard qui a fait qu'il y a ce différentiel. Hein. Il y a de la, on continue à avoir de la création d'entreprises, mais on a de la création de toutes petites structures. 90% de nos entreprises sont de toutes petites structures. Et nos, ces chefs d'entreprise, je dénigre pas du tout, hein, ils ne deviennent pas employeurs.
Ils craignent de devenir employeurs. Pour dire les choses clairement et familièrement, ils ont la trouille de devenir employeurs.
Oui, on peut dire les choses comme ça. Enfin, moi, je le crois.
Oui, Michel, une remarque.
Oui, c'est ce qui m'a souvent fait dire, d'ailleurs, qu'il ne fallait pas que les élus, notamment les élus des collectivités territoriales, se trompent. Hein. Surtout quand ils affirment qu'ils ont comme priorité de développer l'emploi.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas leur boulot. L'emploi, ce sont les entreprises qui les créent. C'est pas eux, sauf à les créer dans les collectivités locales, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose. Par contre, leur métier, c'est de créer des conditions
et de desserrer des freins et des blocages.
Donc, et de ce point de vue-là, bon, j'avais fait observer que les deux leviers principaux, c'était l'État qui les avait, hein, à savoir, c'était le contrat de travail et les charges sociales. Hein. Bon, est-ce que c'était ça les leviers principaux? Je ne sais pas si là, ce que l'en pense Bernard Balester.
Ça fait partie de... Oui, bien sûr, ça en fait partie. Pour moi, les élus territoriaux, le gouvernement, il doit créer les conditions du développement économique. Voilà. C'est ça, c'est son job, c'est ce qu'on lui demande. Après, c'est à nous, effectivement, parce que l'emploi, ce qui fait le développement économique, ce qui fait la richesse du territoire, ce sont les entreprises. Ben, et plus les entreprises vont gagner de l'argent, plus il y aura du développement économique, plus elles créeront de l'activité, des emplois. Je crois que le système est ainsi fait.
Il y a une autre chose aussi. Je sais pas ce qu'en pense Bernard Balester. Moi, j'ai observé que dans les départements et les régions où les pratiques politiques étaient des pratiques de coopération entre institutions, ça marchait bien. Il y avait des créations d'emplois beaucoup plus importantes que dans celles où il y avait un manque de coopération. Et de ce point de vue, force est de constater que dans notre région, on n'est pas gâté en la matière.
Bon, je suis pas tout à fait de cet avis, en tout cas, dans notre région.
Pas de coopération.
Moi, je regarde le périmètre de ma circonscription. Je crois qu'on est arrivé à mettre en place ces coopérations. Aujourd'hui, on se fait confiance. Alors, bon, c'est pas une question de politique, hein, parce que moi, je suis respectueux de tous les politiques, et respectueux surtout, de l'élection, finalement.
Des résultats des élections, et
je travaille donc avec les élus qui sont en place. Et aujourd'hui, avec le Grand Narbonne, enfin aujourd'hui, on est arrivé aujourd'hui à des coopérations vraiment, vraiment importantes. Ils nous ont confié, d'ailleurs, des gestions. J'en parlais dans mon discours de la pépinière Innoveum. C'est nous qui sommes gestionnaires de la pépinière. Voilà. Et là, on est vraiment dans le cadre de ce que tu disais tout à l'heure. C'est la collectivité qui crée la pépinière, et ensuite on le donne à gérer à ceux qui savent, en fait, qui sont entrepreneurs et qui ont la fibre entrepreneuriale, et qui savent gérer et qui savent donner envie aux entreprises de devenir, de se développer. Voilà, on est dans notre rôle. C'est ce qu'on attend des collectivités.
Et alors vous faisiez remarquer, Bernard Balester, que la députée de Narbonne, Madame Fabre, semble aller dans votre sens pour l'assouplissement du code du travail, semble très volontariste dans ce domaine-là. Mais est-ce que vous croyez...
Non, j'ai pas dit qu'elle semblait aller dans notre sens. J'ai dit qu'elle nous avait demandé, de lui donner l'attente des chefs d'entreprise.
Oui, donc il y a un
intérêt. Elle aura peut-être un peu de mal à aller dans notre sens.
Et c'était la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous pensez véritablement, même si c'est votre souhait le plus cher, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement de gauche va réussir à assouplir le code du travail, lui qui a quand même plutôt contribué à l'alourdir qu'à l'alléger?
Je ne sais pas s'il va y arriver, parce que, en tout cas, nous avons un ministre, le ministre Macron, qui avait fait certaines propositions qui ont été recalées d'emblée. Donc, pense qu'il y aura, nous aurons certaines difficultés. Mais pour autant, je crois que quand on a des idées, il faut quand même les exprimer. Et finalement, quand on nous demande notre avis, eh bien, autant
le donner.
Autant le donner. Et voilà.
Voilà. Pour conclure cette interview, Bernard Balester, donc, les chambres de commerce de Narbonne ou de l'Aude future sont quand même là pour s'occuper des entreprises, même si vous travaillez de plus en plus, vous y avez fait allusion, avec d'autres institutions, avec les agglomérations. Mais quels sont les points forts sur lesquels vous travaillez pour l'avenir aujourd'hui?
Point fort. Alors,
avec d'autres.
En collaboration. En fait, on travaille toujours en collaboration avec les autres. Et c'est ce... C'est là qu'on doit aller chercher notre force. On peut pas travailler tout seul dans notre coin. Alors, un grand axe pour les chambres de commerce, c'est l'apprentissage. Et là, on a fait quelque chose de bien au niveau régional. On a créé le CFA régional. C'est une première en France.
Ah, voilà. Oui,
et
il faut le souligner.
Je pense que j'en suis un des acteurs, alors je veux dire pas principaux, parce qu'on a fait ça avec mes collègues, mais en fait, le CFA régional, il est né parce qu'en Narbonne, on a créé un CFA. Et quand j'ai voulu créer le CFA à Narbonne, on a commencé à me regarder presque en concurrent.
Parce qu'il y en a un à Lézignan.
Oui, depuis longtemps.
Il y en a un à Béziers. Et moi, en fait, j'ai voulu créer ça pas pour être concurrent des autres, pour faire un maillage du territoire un peu intelligent. Parce que quand on sait que la mobilité des apprentis, bien souvent, c'est un frein à l'apprentissage.
C'est un des freins à l'apprentissage.
Donc, et ensuite, les CFA sont des établissements qui coûtent cher. Il faut le savoir, hein, ça coûte. Hein,
Toute formation coûte cher.
Au réseau des chambres de commerce. Il faut savoir que ça coûte
au
réseau.
Même donc, si 80% des financements sont régionaux.
Tout à fait.
C'est responsable des CFA qui vous le dit, ça, Bernard.
Je sais, bien sûr, mais ça nous coûte 4 millions au niveau régional.
Donc,
c'est pas rien.
Voilà un chiffre.
C'est pas rien. Mais. J'en reviens à cette réalisation. Ça nous a permis en tout cas d'optimiser, d'être meilleurs et de développer l'apprentissage. Et alors qu'en France, l'apprentissage a diminué ces dernières années, bon, pour multiples raisons, hein, je pense que l'activité économique y est pour beaucoup, nous avons augmenté, alors pas de beaucoup, en Languedoc-Roussillon, hein, je vous le dis très franchement, 2%. C'est pas beaucoup, mais nous avons quand même augmenté. C'est symbolique.
Des chambres de commerce.
Alors que nous avons mutualisé, que nous avons réduit un certain nombre de sections qui ne marchaient pas, on en a créé d'autres, bien sûr, donc on a fait quelque chose d'excellent.
Il y a des élections pour la future chambre départementale très bientôt, monsieur Ballester.
Postulez-vous.
Est-ce que vous êtes candidat à la présidence de cette future CCI départementale?
Écoutez, c'est plus un mystère puisque j'ai dit.
Vous l'avez dit.
Il n'a pas dit présidence.
Il a dit conduire une liste.
J'ai pas dit que j'allais conduire une liste. J'ai dit que j'étais prêt à m'engager dans une liste.
Mais enfin, oui.
Et oui, mais vous savez, une chose après l'autre. Pour moi, c'est d'abord l'intérêt, c'est qu'on construise. Il faut qu'on construise et il faut qu'on construise avec les Carcassonnais, parce qu'il faut qu'on arrête Carcassonne en Narbonne. Demain, il faut qu'on mette en place donc un outil qui soit aussi performant en Narbonne qu'à Carcassonne, surtout le territoire de l'Aude. Et l'entreprise, elle connaît pas ses limites territoriales. L'entreprise, elle a une clientèle, elle voyage, elle est locale, internationale, départementale.
Vous êtes de Lézignan, vous êtes au milieu carrément, en plus géographiquement, en tant que chef d'entreprise.
Enfin, on aura l'occasion d'y revenir et peut-être de vous inviter de nouveau à ce micro lorsque cette échéance.
Je veux bien, ça sera avec plaisir.
Se précisera. Merci en tout cas à Bernard Ballester d'être venu nous parler de la CCI de Narbonne tant qu'elle est encore narbonnaise. Et on vous retrouvera peut-être un jour à la tête ou en tout cas parmi les instances d'une CCI. Audoise. Le prochain invité sera Michel Py, donc maire de Leucate, maintenant conseiller également régional dans cette grande région. On verra ce qu'il pense du plan Marshall, par exemple. Après quoi, les prochains invités, ce sera deux fois des Jacques. D'abord Jacques Michaud, qui viendra nous parler du musée de la Romanité, et la fois d'après, Jacques Bascou, le président de l'agglomération actuelle. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.